BFM Radio, Goût de Luxe. Emmanuel Rubin, Karine Verniolle.
Des goûts de luxe dans Gotha City pour une émission aristocratique. Gotha City, c'est le titre d'un ouvrage qui vient de sortir aux éditions du moment. Enquête sur le pouvoir discret des aristos de Laure de Charette et Benoît Sima qu'on recevait en première partie d'émission. Marcel Botton, bonjour.
Bonjour, Karine Verniolle.
Vous êtes le président de Nomen. Votre domaine, ce sont les marques. Alors, on va nous dire, mais qu'est-ce que fait Monsieur Botton ici? Mais justement, est-ce que les aristos font vendre? Parce que c'est ce qu'ils avancent un petit peu dans le livre Gotha City, enquête sur le pouvoir discret des aristos. Certains ont voulu lâcher le nom, lâcher la particule, parce que finalement ça leur desservait, ça les desservait. Ça arrive. Et d'autres au contraire ont joué dessus pour vendre leur marque, ou même se sont rajoutés des particules pour vendre. Alors c'est un petit peu ce que l'on va voir avec vous. Vous me disiez juste avant de commencer, finalement vous n'étiez pas tellement penché sur la chose.
Jusqu'alors.
On nous avait fait travailler,
absolument. Moi, mon métier, c'est les marques. Donc, l'aristocratie n'est pas le cœur de mes préoccupations. Mais évidemment, quand, à partir du moment où vous m'avez posé la question, je m'y suis intéressé. J'ai regardé un petit peu ce qui se passait avec l'aide de mes collaborateurs. Dans les points de rencontre, si vous voulez, entre les marques et les particules, disons-le comme ça, par exemple. Bon. Alors, j'ai pas été subjugué par l'arrivée massive des particules dans les marques. Hein. On peut pas dire que j'ai constaté ça du tout. Je vous donne quelques exemples. Il existe un ouvrage écrit par un bon ami qui s'appelle les grandes marques, écrit par Jean-Vincent Augouard. Il y a un millier de marques dedans. Alors, j'ai simplement compté combien il y avait de marques.
C'est un travail statistique rapide, ouais.
C'est un travail statistique rapide, mais sur 1000 marques, on commence à être significatif quand même. J'en ai trouvé une dizaine, c'est-à-dire 1% qui revendiquent plus ou moins directement des quartiers de noblesse. Bon. Ou qui ont une apparence de noblesse vraie ou fausse, d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas fait le distinguo à ce stade. Hein. Bon. C'est seulement 1%. Alors, je me suis interrogé un petit peu pour savoir pourquoi les marques que vous appelez aristocratiques ne sont pas plus présentes. Quand on regarde les personnages, par exemple, qui sont mis en avant par les marques, à part quelques catégories de marques, comme effectivement certaines marques de prestige et de mode, la plupart des marques prennent des personnages qui relèvent plus de la méritocratie, je dirais, que de l'aristocratie. C'est-à-dire que ce soit des grands chanteurs, que ce soit des sportifs. Bon, c'est plutôt ces personnages-là qu'on cherche aujourd'hui. L'aristocratie était et reste quand même, malgré tout, un petit peu dépassée dans l'univers de la consommation.
Mais est-ce qu'à l'export, il n'y a pas encore, parce que c'est vrai qu'on a quand même cette image de la France patrimoniale, la France comme ça. Est-ce qu'à l'export, ça ne peut pas marcher? Est-ce que là,
du moins dans certains secteurs, voilà.
Oui, je pense que ça marche mieux à l'international qu'en France, à la limite.
C'est ça.
La France a plus facilement attaché les aristocrates à la lanterne que les étrangers. Parce que, par exemple, les Américains sont très fascinés par le luxe français. Je vous rappelle, parce que c'est pas du tout évident, moi je l'ai découvert en préfaçant un livre récemment, le luxe est une invention française, il faut en être conscient, c'est-à-dire que le luxe, en gros, c'est la cour de Louis XIV. C'était le moyen d'attirer à la cour de Louis XIV les courtisans pour pas qu'ils fassent des bêtises dans les lointaines provinces. Bon. Et après, ça s'est exporté dans un certain nombre de pays, mais que le luxe soit une caractéristique française, c'est par exemple un ouvrage américain qui le dit, c'est pas seulement les Français qui le disent. Alors évidemment, c'est associé, comme les Américains adorent acheter des vieilles pierres par exemple, ou adorent visiter Paris, ils aiment bien aussi ce qui peut évoquer l'aristocratie française, effectivement. Mais ça reste quand même un phénomène petit.
Dans le Champagne, par exemple, on a évidemment Rothschild.
Oui, absolument.
C'est vrai, dans certains secteurs, notamment effectivement les alcools, les spiritueux, les grands cognacs, les armagnacs. Est-ce que là, entre guillemets, soit un nom aristocratique ou d'esprit, d'apparence aristocratique, à l'étranger, à l'export, ne fait-il pas mieux vendre?
Si.
Et alors, on le sait parce qu'on peut avoir par exemple un champagne totalement inconnu en France. Alors là, on va glisser plus dans la noblesse d'empire que dans la noblesse des pays ou dans la noblesse vaticane, mais qui s'appelle Napoléon. Ce champagne est quasiment inconnu en France et c'était un champagne qui marche très très bien à l'étranger.
Alors, vous avez tout à fait raison. Je pense que la gastronomie, par exemple, a besoin de deux choses. Elle a besoin, la haute gastronomie a besoin de, à la fois, de prestige et de tradition. Alors, là, évidemment, les quartiers de noblesse, il n'y a pas mieux, parce que ça évoque forcément une ancienneté, un savoir-faire, une tradition. Et dans ce cas-là, c'est très valorisant. Cela dit, les grands marchés aujourd'hui, ne serait-ce que par exemple la haute technologie, ou bon, dans ces marchés-là, la tradition n'a pas grand-chose à faire, évidemment. Et là, la noblesse disparaît, l'aristocratie disparaît.
Alors on voit même une désuétude qui serait peut-être plutôt déplacée lorsqu'on essaye de parler de high-tech. Et de...
Exactement. Alors c'est pour ça que j'ai découvert, en feuilletant comme ça, j'ai découvert des marques qui sont des marques nobles, mais qui se cachent. Je veux dire que Givenchy n'insiste pas trop sur Uber de Givenchy, par exemple. Castellane de Champagne, c'est deux Castellane, mais en fait, il se baptise lui-même Castellane, quoi qu'il mette ses armes sur l'étiquette. Donc il y a quand même Baccarat. Baccarat, c'est le nom du village, alors que la famille, elle, est une famille prestigieuse. Donc il y a un certain nombre de...
Gomme la particule.
Ils gomment la particule, ils gomment même leur nom. Alors, il y a probablement une raison à ça aussi, c'est que l'aristocratie revendique le droit de ne pas travailler. L'honneur de l'aristocratie, c'est de ne pas avoir besoin de travailler, contrairement à nous, je veux dire, ici. Et donc, il y a quelque chose... Faire des actes de commerce pour un aristocrate, c'est changer de catégorie. Je veux dire, le commerce, c'est le tiers-état, c'est pas l'aristocratie. Donc, les nobles qui se lancent dans le commerce n'étaient pas tout à fait fiers à l'époque et pouvaient se dissimuler.
Alors, c'est peut-être plutôt une jeune génération qui va tenter de renouveler un petit peu le genre ou de bousculer les choses, comme on peut dire.
Ouais. Vicomte A, par exemple.
Voilà, Vicomte Arthur.
Racontons cette histoire de Vicomte Arthur que nous avions reçu d'ailleurs. Le jeune créateur de cette marque, nous l'avions reçu sur Good Luck. Vicomte Arthur, ça renvoie. C'est une marque de vêtements, ça renvoie effectivement à un univers. Alors, est-ce que ça fait vendre ou pas? Finalement, ça a l'air de l'avoir lancé dans certains milieux, on va dire, un peu BCBG.
Alors, d'abord, il faut dire que les produits sont intéressants, ils sont beaux, ils sont créatifs.
Du prêt-à-porter haut de gamme, genre polo, etc.
Oui, avec une note de créativité,
oui,
en plus.
Tout à fait.
C'est-à-dire tout à fait le contraire de ce qu'on attendrait d'un vêtement aristocratique. Donc, je pense que
c'est pas Cyrilus.
Oui, donc je pense que son habileté, justement, ça a été de décaler, d'ailleurs. Il s'appelle Vicomte A et non pas Vicomte Arthur, en pratique, hein, dans les... Bon, puis Palm Beach, Paris, enfin... Il joue le décalage et les produits eux-mêmes sont décalés. C'est pas typiquement des produits aristocratiques, c'est des produits plutôt, chic, décalé, quoi, quelque chose comme ça. Donc, peut-être que justement, pour effacer ce côté un peu traditionnel, lourd de l'aristocratie, il joue avec ce code en se décalant.
Et selon vous, c'est plutôt réussi, M. Botton?
Ben moi, j'en porte des filles comme ça.
Donc, c'est que ça marche.
J'ai trouvé le produit beau. Il y a quand même, on vit quand même dans un monde où les beaux produits, c'est quand même ce qui marche. À partir du moment où il a un bon produit, bon.
Mais cette manière de néoclassicisme, vous parliez un petit peu de valeurs, un petit peu traditionnelles, mais légèrement twistées, un peu décalées. Justement, est-ce que dans une société qui souvent a besoin un petit peu de se rassurer, notamment en matière de vente et de commerce, est-ce qu'à terme, ça peut devenir un filon? Est-ce qu'on peut voir d'autres, et dans d'autres secteurs différents, Vicomte Arthur, s'amuser comme ça avec les codes de l'aristocratie ou l'apparence de l'aristocratie pour vendre des produits à l'avenir, et peut-être ça pourrait être un filon parmi d'autres?
Je pense que ça peut jouer comme ça, d'ailleurs. Il y a beaucoup...
Comme on a joué avec les noms anglo-saxons à un moment donné, est-ce que ça pourrait...
D'abord, il y a beaucoup de fausses marques aristocratiques. Je veux dire, De Fursac n'est pas plus aristocratique que moi, enfin, encore que moi je m'appelle De Botton, par exemple. Mais personne ne le sait, mais ce n'est pas un deux aristocratique. Donc il y a, effectivement, dans certaines catégories, il y a peut-être l'envie de jouer avec ces codes, mais pas de les assumer pleinement, parce que finalement, qui a envie aujourd'hui de faire semblant d'être aristocrate? Il y a des gens, oui, c'est par exemple dans les allées du pouvoir. Oui. Deux anciens présidents de la République se sont payés des châteaux, rien que le château de Bity ou le château d'Estaing, pour se rattacher à des origines aristocratiques fausses d'ailleurs. Hein. Bon. Mais ça, c'est réservé à une petite élite. Mais la masse des acheteurs, la grande consommation ne rêve pas, les cités ne rêvent pas de devenir des aristocrates. C'est pas leur...
c'est, ça fait rêver personne.
Enfin non, ils rêvent de devenir des idanes ou des aventuriers mais pas des aristocrates. C'est pas ce qui fait rêver aujourd'hui les
acheteurs.
Donc,
de toute façon, même s'il y avait un filon, ça resterait un filon très circonscrit à un petit domaine.
Oui, c'est un petit domaine. D'ailleurs, je vous en donne des exemples. Prenons le domaine de l'art, de la musique. Il y a d'authentiques aristocrates dans la musique. Il y a Zazie, par exemple, qui est une authentique aristocrate, qui l'a soigneusement masqué.
Trophy de Varenne.
Voilà, je vois que vous connaissez bien. Il y a le groupe Versailles qui est composé pratiquement uniquement, enfin qui s'est rebaptisé Mona Lisa.
Bah alors vous voyez peut-être que du coup une génération va se laisser tenter à un moment donné.
Non, parce que tout. Ouais. Zazie, Versailles.
Bon. Cache. Alors soit on a encore une culpabilité de l'ancienne aristocratie. Finalement l'aristocratie, ça s'oppose à la méritocratie. Bon, la méritocratie, c'est Zidane, il s'est battu, il a fait du football, il a gagné, il était bon. Ça, ça fait rêver, parce qu'on dit, moi j'ai une chance de devenir bon. J'ai aucune chance de devenir aristocrate, puisque je ne le suis pas, justement. Bon. Donc c'est probablement là que c'est difficile de jouer l'aristocratie, c'est-à-dire la barrière des classes. Alors je voudrais juste attirer votre attention sur un petit problème sémantique. À l'origine, l'aristocratie, telle qu'elle a été définie par Platon, c'était quelque chose de bien, c'est-à-dire c'est le mérite de ceux qui sont les meilleurs. Bon, aujourd'hui, on l'a assimilé à la noblesse, en fait, ça remonte à la Révolution française.
C'est ce que nous expliquait Blanche de Kersin, la rédactrice en chef du Bottin Mandin, qu'il faut bien faire la distinction entre l'aristocrate, qui renvoie quand même à une notion de méritocratie, et la noblesse, qui, elle, est quelque chose d'inné et pas d'acquis.
Absolument, alors que l'aristocratie, ça pourrait être bien, c'est-à-dire que si nos élites se dégageaient sur des critères autres que les concours de le classement Lénard, par exemple, mais peut-être des choses un petit peu plus indiscutables, même le football, pourquoi pas. Bon, bah là, se dégagent des élites, et ces élites-là, elles font rêver tout le monde. Ça, c'est des vraies élites, c'est des gens soit qui chantent bien, qui jouent bien au football, qui ont fait des exploits extraordinaires. Ça, c'est très bien. Alors, en un sens, je dirais vive l'aristocratie, mais pas celle qui est innée, quoi.
Donc, a priori, après le prince jardinier, après comtesse du Barry, après vicomte A, il n'y aura pas tellement d'autres marques.
Il y aura toujours une petite frange. Alors, vous savez, comtesse du Barry aussi, c'est la famille du Barry en un seul mot. Dupont d'Isigny, c'est la famille Dupont qui faisait des bonbons à Isigny. Mais d'abord, c'est une marque un peu ancienne, quand même. Dans les marques récentes, j'en vois pas beaucoup qui ont joué à l'aristocratie. J'ajouterai un point aussi, c'est que c'est les marques mondiales aujourd'hui qui s'imposent. Et l'aristocratie, c'est pas mondial, quoi.
Oui. Bon, eh bien, à suivre, Marcel Botton. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de Nomen, Marcel de Botton. On fait une petite pause. On n'a pas loupé celle-là. On fait une petite pause, le temps des infos sur BFM Radio. On va passer en cuisine, parce que là aussi, il y a de l'aristocratie, n'est-ce pas, Emmanuel?